Le réseau de la Maison de la culture est l'aude d'un grand ralliement d'artistes contemporains et numériques. On peut même parler d'un raz-de-marée d'événements à la Maison de la culture. Écoutez, c'est quelque chose, 32 expositions. Et bien, on peut y découvrir actuellement, à travers ces nombreux événements, des milliers d'horizons. Et c'est d'ailleurs le titre de cet événement d'ampleur, hein, spécial, qui souligne le 375e anniversaire de Montréal. Et devant moi, bien, je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir à l'instant avec la commissaire qui a travaillé énormément dans l'ombre, Nathalie Bachand, la commissaire donc, de cet événement. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Très bienvenue. Est-ce que c'est un projet spécifiquement subventionné dans le cadre du 375e? Le 375e avait un programme de subvention, je suis curieuse.
Oui, non, c'est un projet qui souligne. C'est dans le cadre du 375e qui le souligne, mais c'est le projet de la ville, du réseau Accès Culture, donc qui ne relève pas de la société du 375e, qui n'a pas été financé par la société. C'est un financement.
C'est d'autant plus méritant d'avoir... démarrer ce projet-là, hein, qui est, je pense, d'après ce que j'ai lu, fondamentalement axé sur Montréal. Hein,
Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que Un million d'horizons est un thème qui permettait d'ouvrir sur plusieurs possibilités en termes de sujets, de sujets d'exposition, d'œuvres. Plusieurs œuvres... nous parle en quelque sorte de l'insulaire, du territoire, de la cartographie, aussi de l'héritage, du patrimoine. Donc, c'est plusieurs notions qui reviennent beaucoup.
De l'expérience de la ville aussi, hein?
De l'expérience de la ville, tout à fait, exactement. Donc, quand je dis territoire, c'est à ça que je pensais, mais de la ville, mais aussi de l'extérieur de la ville, de ce qui nous lie de la ville à autre chose.
Donc, vraiment absolument inspirant. Et même, je parlais même de poésie, hein? Certaines expositions imprégnées de poésie.
Oui, tout à fait. Une en particulier qui est plus un projet en tournée dans les arrondissements, qui est « Lettres d'amour aux arbres centenaires de Montréal ». C'est un projet qui a été pensé par Bertrand Laverdure, qui était le poète de la cité l'année qui vient de passer, je ne me trompe pas.
Avec une artiste vedette.
Tout à fait, Patti Van Roos et aussi Éric Théoret. Et donc, ce projet, oui, met de l'avant la poésie, donc parce que Bertrand a écrit des poèmes, des lettres d'amour qui sont un peu comme des poèmes à certains arbres centenaires. Et ils invitent les citoyens à faire de même.
C'est ça qui est particulier. On pourrait parler de ce qui est proposé dans le cadre de cet événement-là. Ce sont de nombreuses expositions, mais pas que des expositions. Il y a des activités, je pense, qui s'adressent au public.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'activités de médiation qui ont été mises sur pied en parallèle. J'ai un peu moins pris part à certains... à cet aspect en particulier, même si dans certains cas, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce que pourraient être les activités de médiation en lien avec les expositions.
Ça tombe bien, en tout cas, qu'on parle de Patti Van Roos et de Bertrand Laverdure, puisque ce dimanche est indiqué dans mon agenda une activité, donc, grand public de midi à 15h au Parc en Grignon, entrée de la Vérendrye, donc une activité de lettres d'amour aux arbres centenaires de Montréal, pique-nique et création de lettres d'amour. Écoutez, c'est très touchant, on reconnaît bien là les interventions de Patti Van Roos, c'est magnifique.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Alors, dans le fond, vous parliez tout à l'heure que vous êtes la commissaire principale, mais il y a toute une équipe qui a travaillé avec vous.
Absolument. Daniel Racine, qui est commissaire à la médiation culturelle du service de la culture à la Ville de Montréal, qui a initié le projet. Et donc, avec elle, je travaille également très étroitement avec Ingrid Vallus, qui est en charge de plusieurs aspects du projet, notamment tout ce qui est logistique. Sans elle, rien n'aurait été possible. On a travaillé vraiment en duo là, sur tout le processus de réalisation des expositions, tout à fait.
Alors, c'est vraiment donc toute une équipe en place et évidemment différentes maisons de la culture qui ont réussi à s'adapter à tout ça?
Toutes les maisons de la culture, mais il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs lieux de diffusion qui ne sont pas des maisons de la culture, qui ont des statuts différents. Il y a des lieux de toute nature, je dirais. Il y a des salles d'exposition, il y a aussi des halls, plus des halls de bibliothèque. Il y a aussi, à travers les 32 projets expositions, deux projets qui sont en extérieur, c'est peut-être à noter, dont un qui est rattaché à Plateau-Mont-Royal, mais qui est visible au coin des rues Saint-Viateur et Saint-Laurent. Il s'agit de maquettes sous vitrine réalisées par Guillaume Lachapelle et Patrick Ma. Un duo d'artistes, et donc...
Ouais, tout près de Radio Centre-Ville.
Donc, c'est parfait. C'est visible jusqu'à la mi-août. Là. J'ai pas les dates en tête de toutes les expos.
C'est important, justement, qu'on se rende compte, parce que je regardais toutes les nombreuses expositions et un grand nombre se termine quelque chose comme le 20 août. Hein. Alors, oui, il nous reste un bon mois pour aller en profiter. Donc, l'entretien était d'autant plus important. Alors, oui, on parlait de l'ampleur du projet. C'est quelque chose... Écoutez, ça tient d'un marathon pour quiconque voulait relever le défi d'aller à tous les vernissages. Je pense un peu en être très fier. C'est un vrai marathon.
Je pense être la seule qui a assisté vraiment à tous les vernissages.
On parlait donc d'ampleur, oui, 50 artistes, des duos d'artistes en art visuel et numérique. Bien sûr, on parlait des 32 expositions professionnelles, 23 projets de médiation culturelle, des centaines d'ateliers, des activités de découverte artistique dans toutes les maisons de la culture. C'est quelque chose. Oui, un événement d'ampleur et c'est bien sûr 50 artistes et duos d'artistes. Alors, si on parlait peut-être de quelques expositions que j'ai vues, que je trouve vraiment absolument fascinantes, là. Mais parlons de la Maison de la culture de Côte-des-Neiges. Alors, je suis absolument ravie de retrouver Virginie Lagagnère, accompagnée en duo avec Jean-Maxime Dufresne, pour une exposition vraiment, vraiment pertinente, post-olympique. C'est pour nous la présenter un petit peu, pour nous donner le goût d'accourir la Maison de la culture Côte-des-Neiges.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Le projet post-olympique de Jean-Maxime et Virginie, donc qui est un projet à la fois projet artistique évidemment, mais qui comporte une grande portion documentaire, si on peut dire. C'est-à-dire que les artistes ont voyagé sur différents lieux où se sont tenus des Jeux olympiques à différentes périodes et en ont ramené des documents, photos, vidéos. Et à partir de ça, ont recréé une sorte de... comment dire... n'ont pas recréé, mais ils sont allés chercher une perspective qui est moins spectaculaire par rapport à ce qu'on connaît des Jeux olympiques normalement. Bon, et Montréal aussi en fait partie. Donc, ils sont allés à Beijing, Sarajevo, à Athènes. Donc, j'en oublie, je crois. Mm-hmm. Et oui, c'est vraiment une exposition à voir.
Ils sont allés à l'étranger, mais pour parler un peu de notre expérience olympique ici, et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est des photographies qui démontrent l'usure des bâtiments.
Oui, beaucoup de documents nous montrent de quelle manière c'est laissé à l'abandon. Ce qui reste de ces Olympiques en mode post, l'après-Olympique, et de quelle manière ça peut, c'est-à-dire non pas dévaster une ville, mais ça laisse des traces quand même, des vestiges, si on peut dire.
Oui, et ça suscite, je dirais, une réflexion, hein, sur nos bâtiments publics. On sait à quel point ce dossier-là est chaud, mais oui, il y a le point de vue des politiciens, il y a le point de vue des grands défenseurs du patrimoine sportif, mais il y a le point de vue artistique, alors, qui est intéressant dans cette exposition-là. Il y a un regard artistique. C'est une exposition jusqu'au 19 août. Je trouve que c'est tellement emblématique de Montréal que cette exposition est d'autant plus pertinente. Voilà. Et maintenant, on a une exposition vraiment très particulière qui fait sourire, qui est vraiment caractéristique de la démarche d'Arthur Desmarteaux, bien sûr, le Temple des Glorieux. Alors, hommage, mais selon un angle très particulier, au hockey à Montréal-Nord.
Tout à fait. Étienne Rochon, alias Arthur Desmarteaux, avec le Temple des Glorieux, propose aux visiteurs une installation autour du thème du hockey, qui est à la fois un hommage au hockey, qui en quelque sorte fait partie du patrimoine québécois, disons-le, canadien. Et donc, l'exposition propose à la fois des œuvres picturales, de l'installation sculpturale où Étienne Rochon collecte depuis de nombreuses années des artefacts sur le thème du hockey. C'est présenté avec beaucoup d'humour.
Oui, l'humour qu'on connaît. Arthur Desmarteaux, oui. Étienne Rochon, pardon, alias Arthur Desmarteaux.
Oui, c'est ça. Beaucoup beaucoup d'humour, deuxième degré, il faut le prendre avec une pincée de sel, disons.
J'aime particulièrement un humour donc grinçant, mais j'aime particulièrement le petit cubicule qui a été créé. Comment ça s'est fait, ce cubicule-là, avec un comédien qui nous accueille, vraiment un simili, un pseudo-entraîneur de hockey?
Oui, le comédien, c'est l'artiste lui-même qui s'est déguisé pour l'occasion et qui s'est même laissé pousser une vraie moustache, m'a-t-il dit. Et donc, c'est un peu un confessionnal, mais à l'intérieur duquel on a un entraîneur de hockey qui se retrouve à un peu faire un sermon à un joueur. Le joueur, finalement, c'est nous qui sommes assis dans la petite cabane. Et encore une fois, c'est avec beaucoup d'humour que la scène se joue sous nos yeux, que la vidéo se déroule.
On ne connaissait pas ce talent de comédien. On va de surprise en surprise, donc. Et peut-être on terminera avec une autre que j'ai vue, parce que une autre exposition est déjà terminée. La Maison de la culture Rosemont-la-Petite-Patrie, alors, laisse plus place à l'expérience, un petit peu des migrants.
Oui, tout à fait. Ben, c'est une exposition qui regroupe trois œuvres, donc, ouais. De Last Syllable, Syllable of Time de Pavitra Vikramasinghe. Tout ce qui flotte d'Éric Sauvé et finalement la troisième œuvre qui est une animation vidéo de Lisanne Picard et Johanna Chelkoska, La possibilité d'une île. Et ce sont trois œuvres qui nous parlent de l'insulaire et du rivage. L'exposition s'appelle Trois rivages. Donc, d'une part, on a la vidéo de Pavitra qui nous parle d'un monde laissé sans dessus-dessous. On voit une image d'un embarquement renversé sur les rivages du Sri Lanka, qui est le pays d'origine de l'artiste. Et l'image est doublement renversée par la manière dont la réalisation de la vidéo a été faite. C'est une vidéo très touchante. Parallèlement, on retrouve l'animation vidéo de Lisanne et Johanna, La possibilité d'une île, qui est en fait une animation, comme plutôt un dessin animé qui a été réalisé entre les deux artistes en mode aller-retour. Chacune amorçait une image, était complétée par l'autre artiste, un peu comme un cadavre exquis. Et ce qu'on a sous les yeux, c'est une île en mutation. C'est une petite boucle de 3 minutes environ.
Et, très intéressant, oui.
Ouais. Ouais, très belle œuvre. Oui. Deux artistes émergentes, une de Sherbrooke et une autre qui habite Montréal. Et enfin, Tout ce qui flotte d'Éric Sauvé est une sculpture qui a été réalisée à partir de bidons d'essence. Et l'artiste a souhaité jouer sur l'ambivalence entre un objet qui évoque un certain danger, mais qui finalement sert à nous sauver éventuellement, parce qu'à partir des bidons d'essence, par-dessus les bidons d'essence se trouve posé un assemblage de bois, donc ça devient un radeau.
Et ça fait le bonheur des enfants qui, lors du vernissage, grimpaient sur l'œuvre. Il faut aller voir ces nombreuses expositions. Je vais poursuivre mes visites d'exposition. Je suis ravie de découvrir des œuvres qui ont déjà été exposées, qu'on peut revoir. C'est d'importance, comme l'œuvre de Pavitra Vikramasinghe qui a déjà été exposée, cette œuvre-là, dans le cadre du Festival Accesi. Manuel Chante, qui avait déjà exposé cette œuvre-là, cette installation-là, à Eastern Bloc. On est absolument ravis de revoir cette exposition qui m'avait vraiment, que j'avais trouvé percutante il y a plusieurs années. Alors, ça fait mon bonheur estival. Alors, peut-être en terminant, il n'y a plus de vernissage à venir.
Il n'y a plus de vernissage, mais il y a quand même un dernier projet qui va commencer le 8 août à la bibliothèque Saul Bellow de la Chine, qui est un projet de participation citoyenne de Dominique Ferraton et Maya Yodzova, qui a une portion exposition dans le hall de la bibliothèque également. On travaille aussi en ce moment sur un catalogue qui va compiler tout le contenu des 32 expositions projets. Ça va être lancé début septembre.
Alors, le bilan pourrait se retrouver dans ce catalogue. C'est d'importance avec tout ce déploiement. Alors, merci beaucoup, Nathalie Bachand, pour cette entrevue vraiment qui était d'importance. Alors, donc, un événement, là, un grand déploiement en cours dans tout le réseau ou presque des maisons de la culture. Il y en a seulement une, hein, la maison de la culture Lille-Bizarre, Sainte-Geneviève, où le projet n'a pas lieu parce que la maison est en...
C'est une nouvelle salle en construction. Ça a dû être reporté. Donc, il y aura des annonces à venir au mois d'août au sujet de cette exposition-là. Ouais.
Peut-être donc un événement tardif à l'île Bizarre-Sainte-Geneviève. Ben, merci. La plupart des événements, comme j'ai mentionné, se terminent soit le 20 août ou le début septembre. Bien, bon été, Nathalie Bachand, félicitations encore.
Merci beaucoup, Chantal.